RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein. Mais j'espère que la roue va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Gilbert Brébois.
Ils sont là en compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Je parle de qui ? Je parle des drôles de dames, bien sûr, jingle. Et ouais, ils sont là comme tous les lundis. Simone Rovira, bonsoir.
Ciao, Wallacera, bonsoir.
T'as vu comment on est sympa, on t'a pas envoyé en vacances, hein ? On t'a gardé
ici.
Alors que t'as plus aucun suspense, plus un club en Coupe d'Europe, rien.
Le champion est déjà.
Je vais te trouver des choses, mais j'en vanterai jamais.
Très bien. C'est tout de ton honneur.
Heureusement.
Bah écoute.
Non, mais là, après c'est la crédibilité, Simone, qui est en jeu après.
Bah, je prends l'exemple de David Lorto. Il peut nous raconter, nous inventer ce qu'il veut sur Dynamo Leipzig ou Sampaoli. On n'ira pas vérifier, par exemple.
J'ai une histoire pour vous ce soir. Allô, Freunde.
Salut David.
Salut David.
Ils sont là également. Maybe the best league in the world. N'en déplaise à Fred Herbel, mais cette année, ça peut tourner comme ça. Julien Laurence, bonsoir.
Bonsoir à tous depuis le pays qui a donc la best league in the world.
Attention, Fred Herbel, peut-être un peu vexé, est également parmi nous. Salut Fredo.
C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Rendez-vous sur RMC Sport, même sur BFM TV, hein, si je me trompe pas, le 1er juin au soir. On verra qui est champion.
Jour de la finale de la Ligue des Champions.
Exactement. Puis on verra juste avant qui, ça, Bakou, il me semble.
Ça peut pas tourner tous les ans, en fait. Ça peut pas tourner pour toi.
Ouais,
tous
mais
les
là,
ans.
Moi, tu sais, tant, oui, c'est bien. Mais là,
moment,
ce serait normal.
Un moment, faut lâcher un peu. Ça, tu peux pas croquer tout le temps.
Je sais.
Tu t'es gavé tellement.
Mais là, je sens quand même que le Barça est très bien parti. J'en suis persuadé. Et je me demande si Valence va pas faire un petit coup en Europa League aussi, qu'on va encore faire un doublé.
Puis tu as encore le droit d'y croire.
Ah ouais, là, ça veut dire que t'es en plein croquage. Si c'est le cas, là, tu vas encore croquer et te gaver.
Ah ben ça ferait 19 sur 20, ça ferait 21 trophées gagnés par les équipes espagnoles et trophées internationaux sur 22 possibles. C'est 19 sur 20 et ça serait 21 sur 22.
Il est déjà à fond, il y croit, il est dedans.
Ouais, il croit.
Ouais. Non mais sérieux, quand je vois le Barça...
On est devenu des Néerlandais dans l'âme. Tu perds face au champion, écoute.
Tu sais que tu plaisantes par rapport à ça, mais ça a mis un petit peu de baume, un tout petit peu de baume au cœur aux Madridistes qui se disent bon, finalement, on s'est pas fait éliminer par des nuls quoi. Donc ça règle pas le problème, mais au moins ils se consolent un petit peu comme en disant bah l'Ajax c'est sérieux,
ouais, comment on peut.
Baume du tigre.
Bah c'est une manière. Ah, baume du tigre, c'est vachement bien. C'est super pratique. Ah ça pue, ouais, il te faut 2 heures pour te nettoyer les mains.
Tu mets ça où, le baume du tigre?
Ah, j'aime bien l'odeur.
Ouais, bah sur la poitrine.
Non, pas là.
C'est comme le Vicks Vapor, bah faut pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont regretté.
C'est partie du corps, donc il y a pas de raison que là.
Ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont regretté.
C'est difficile, tu vas pas te froisser à cet endroit-là. Il n'y a pas de blessure.
Ça chauffe ce soir.
On aurait dû demander à Rocco.
Ah, je pense que ça peut arriver. S'il y avait des blessures de ce côté-là.
Ouais, je pense.
Il s'est jamais blessé sur les travaux.
Mais on n'a pas demandé.
Élongation, c'est sûr.
Il a déjà eu un accident du travail. Il faut le rappeler, il y a plein de questions qu'on ne lui a pas posées ce soir-là.
Oh, l'ITT.
Vous étiez tellement intimidé, j'étais le seul à faire une interview correcte ce soir-là. Il y en a un qui était sous la table, là, Simonet.
Attention, ce que tu dis,
il perlait du front, Simonet.
On fait ça depuis 2 semaines, il s'est refait toutes les cassettes vidéo, parce qu'il les regarde en VHS.
Voilà.
Et j'ai encore un magnétoscope
avec le petit couinement.
Bah, à la maison, c'est chez mes parents. J'espère qu'elle m'a.
Oh, quelle horreur!
Il a pas vu ça dessus, là, parce que.
Mais non.
T'avais mis couverture de films Disney dessus?
Simonet.
Non, des films.
On a tous fait ça. La cassette de je sais pas quoi, des bronzés font du ski à partir de la 30e minute.
Oh, non, c'est pas à partir de la 30e minute.
La 3e, tu faisais des montages.
C'était au début.
Le générique, Simonet.
Fred, il a jamais eu de problème, il est jamais allé au-delà de 30 secondes dans ce film-là.
Non, mais moi, c'est pas ça. Moi, c'était
après
pas
Michel Blanc et ses
moi, je de gare. Moi, c'était les catalogues de la Redoute et des Trois Suisses. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux pour les premiers émois amoureux. Ça, c'est...
On va avoir de l'imagination, quand même.
Tu peux pas imaginer ce qu'il y avait à l'époque. Non. À les pages dessous des Trois Suisses, mais il n'y a pas une femme qui m'a donné plus d'émotions depuis.
Oh la vache.
Et je suis sûr que ceux qui sont nés dans les années 60, 65, 70...
Je dois dire que parfois, il m'arrivait de prendre la Redoute et de regarder les pages de la
quand même.
Les on pages dessous, je regardais, je me disais, ah bah oui. Quand même.
En Italie, il y avait les pages dessous, elles étaient à la fin. Non, à la fin, non. Dans les catalogues des trois Suisses, etc. À la fin, c'était le.
À la fin du catalogue.
C'était les tondeuses, à la fin.
Ben oui, non, il a raison, frère. C'était le matériel jardin,
etc. Excuse-moi, mais t'es plus jeune. Avec Fred, à l'âge qu'on a, nous, les VHS, ça arrive en 83, 84. Le film de Cana, il arrive en 84. Avant, on avait déjà 14 ans. Il fallait bien qu'on regarde des trucs, quand même.
Et moi, j'avais
le lui, tout ça, on n'arrivait pas à le choper. Une fois, on avait chopé un lui avec des potes. On s'était enfermé dans la forêt pour oser l'ouvrir. Ça m'a fait se faire rigoler. C'est celui avec Corinne Charby, boule de flipper.
Oh là 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 là.
Tu l'avais pas vu, Fred, tu vas?
Ah non, mais si tu pouvais être tout le temps comme ça, tu serais merveilleux. Ah, mais là, t'es parfait. C'est comme ça que je t'aime, tu sais.
Tiens, ça me permet de répondre à Cisco sur le Direct Studio qui me propose lui aussi de nous envoyer un martinet pour Daniel. Donc, envoie à Cisco. Je prends
Cisco,
tous les martinets.
C'est Francis Lasser, tu crois?
Peut-être. Ouais. Peut-être c'est Francis Lasser. Bon. J'aimerais qu'on dé...
Et maintenant vos places pour la finale de la Coupe de France de football. PSG. Envoyez foot par SMS au 7-32-16.
Voilà. Même quand il n'y a pas de match, on se fait couper la chic par Jeannot Essayé. C'est incroyable. Vous venez d'entendre le signal sonore. Vous avez maintenant 20 minutes pour...
Sonore. Donc la voix de Jeannot, c'est un signal sonore pour toi. Il appréciera, monsieur.
Non, je lis ce que l'on appelle mon speak. Donc vous avez 20 minutes là pour participer et gagner vos places pour la finale de la Coupe de France de samedi prochain. Vous envoyez foot par SMS maintenant au 732-16. C'est parti, vous avez 20 minutes. Bon, pour démarrer les drôles de l'âme, j'aimerais qu'on parle d'un club dont on ne parle jamais. L'Atalanta Bergame.
Oh.
Qui ce soir gagne à Naples et qui est aux portes de la Ligue des Champions.
Qu'on ne parle jamais, c'est pas vrai, parce que j'ai dit souvent que c'est les meilleurs jeux qu'on voit en Italie. Et encore ce soir, les matchs qu'ils ont fait à Naples.
Contre Lyon il n'y a pas longtemps, on en avait parlé. Très belle équipe de foot.
Il y a très belle équipe de foot.
Saison dernière.
Il y a très longtemps, David.
L'Atalanta, c'est les seules équipes italiennes. Et là, ça ouvre en page.
Bon, le match était ce soir. C'est pour ça aussi qu'on en parle.
Joué ce soir. Victoire de Naples. Premier but de Naples. Après, l'Atalanta revient au score. Peut-être Naples était un peu fatigué, mais je sais pas de quoi, parce qu'ils ont pas joué jeudi en Ligue Europa. Ils ont fait un pass sur le match retour face à Arsenal. L'Atalanta, c'est une équipe qui suit les idées de son entraîneur, qui en début de saison peut-être rate un peu, mais il y a une construction derrière. C'est pas un hasard que depuis 2-3 ans, peut-être 3 consécutifs, les latéraux de l'Atalanta sont les meilleurs latéraux en Italie à niveau de but et passes décisives. C'est parce que les jeux de Gasperini, c'est vraiment quelque chose de propositif, des joueurs qui vont vers l'avant. C'est l'équipe qu'en Italie, on fait plus de comparaison avec l'Ajax, c'est pas un hasard que c'est l'équipe qui a détruit la Juve en Coupe d'Italie 3-0, la Juve avec Cristiano, qui l'avait mis en énorme difficulté en championnat à la Juventus. C'est une équipe qui fait du jeu, qui a de l'intensité. C'est une équipe qui joue bien, qui a un plaisir à regarder. Et aujourd'hui, elle est quatrième à égalité des points avec Milan. J'espère vraiment de l'avoir au moins en Ligue Europa, parce que ça fait du bien.
On l'avait vu l'année dernière.
On l'avait vu. Ils se font éliminer par Borussia Dortmund après avoir fait un très beau groupe face... Il y avait Everton, il y avait Lyon... Ils sont arrivés première, je pense, de ces groupes faisant un très beau chemin. C'est la meilleure équipe à niveau du jeu. Et cette année, ils ont trouvé un attaquant, Duvan Zapata, qui est aujourd'hui deuxième meilleur buteur de la Serie A derrière Quagliarella, qui marque des buts. Il a toujours manqué un avant-centre. Aujourd'hui, ils ont trouvé d'avant-centre. Je ne sais pas quoi dire de plus, sauf que c'est un plaisir de voir jouer cette équipe.
Parle Gasperini, il est un entraîneur qui est connu depuis très longtemps en Italie. On ne parle pas d'un jeune entraîneur qu'on découvre, non. C'est un mec très connu. Qui avait été essayé
à l'Inter.
Ailleurs, à l'Inter, et ça n'avait pas marché.
Il était resté. Les problèmes à l'Inter, il a fait, je pense,
c'est un gars
matchs.
Qui faut du temps pour mettre en place ses idées, c'est une évidence.
Et il veut jouer avec ses idées. Lui, il voulait mettre la défense à 3 à l'Inter. Ouais. Les joueurs ne voulaient pas. Ouais. Moi, je pense que après Mourinho, les meilleurs matchs que j'ai vus de l'Inter, c'était avec Gasperini, de ces 5 matchs. C'était vraiment une derby des supercoupes. L'Inter avait dominé le Milan pour 60 minutes. Après, ils ont perdu 2-1. C'était Milan encore de Boateng, Ibra. Mais tu voyais qu'il y avait une idée derrière.
Ouais.
Hier, il y avait un bel entretien d'Arrigo Sacchi sur le Corriere dello Sport. Et une chose que disait, c'était les équipes italiennes jouent jamais avec les gardiens et tous les défenseurs qui font le jeu. L'Atalanta et les Gasperini, qui jouent à 3 derrière, c'est un 3-4-3, 3-4-1-2, jouent avec les 3 défenseurs qui, tous les 3, font du jeu.
Enfin, tout le monde participe au jeu, c'est ça l'idée.
Tout le monde participe au jeu.
Dont parlait Saki dans l'interview de ce matin.
Ils ont la possibilité d'être toujours en surnombre. Aujourd'hui, attaquer Naples avec 7 hommes dans la surface, et c'est pas un hasard qu'ils ont, à niveau de rythme, ils ont tenu, ils ont détruit à petit les murs de Napoli, ils ont gagné logiquement, et j'espère vraiment de les voir aller loin.
Et donc, est réapparu à travers la performance de Gasperini et le débat dont que tu m'as envoyé ce matin, interview de Sacchi qui est souvent un peu isolé en Italie contre la culture du résultat. À chaque fois qu'il parle, il est un peu là. En l'occurrence, il y avait
d'autres gros noms qui ont la culture du résultat. C'est pas bien, c'est lui ça, contre le reste du monde.
Et tu as absolument raison. Tu fais une transition pour l'avis de Simonet du soir là.
Oui. Ah, tu voulais faire l'avis là-dessus. Ok. Non, parce que Capello évidemment est dans la boutique d'en face. Et en Italie, le problème c'est qu'il y a, comme tu dis, des noms. Qui ont, et des mecs qui ont gagné énormément et qui sont dans le camp d'en face. Et souvent, Sacchi est un peu seul. Enfin, Gasperini avec lui, Sarri, il y a plein d'entraîneurs qui sont avec lui, mais bon.
Sacchi, dans cette entretien, disait, c'est une erreur mortelle d'avoir fait partir un joueur, un entraîneur comme Sarri dehors de l'Italie parce que lui.
Oui, bien sûr.
C'était quelque chose de différent.
Alors oui, non.
Jingle à vie tranchée ou je pars direct?
Bah, vas-y, lance ton propre jingle si tu veux.
Ah, si. Y a pas vite tranché, c'est un jingle.
Fonda tutte le porte, alzate sulla schiena. In maglia bianconera, è un sogno che si avvera. Cristiano da Madera.
Celui-là.
Quand Cristiano faisait gagner les.
Enfin, quand Simonet chante mal, surtout.
Écoute, j'ai chanté
le c'est quoi, Simonet?
Ah, il est pas mal.
Ah, bah, Fred Hermel chante mieux, pardon.
Eh non, ouais, Fred Hermel, c'est pareil, c'est ça. C'est, il a fait du karaoké toute sa vie.
Non, mais Frédéric Hermel, il voulait pas être journaliste, il voulait être chanteur, mais.
Fred Hermel, il voulait être Léo Ferré, il voulait pas être journaliste.
C'est vrai, en plus.
Ou Julio Iglesias, d'où le lien, la proximité avec le Real.
Exactement, puisqu'il
puisqu'il devait être gardien de but de l'équipe avant son accident de voiture.
De voiture, qui a failli mourir et il est devenu un grand chanteur et il s'est fait plein de gonzesses.
Je sais pas s'il aurait connu moins de femmes en étant gardien du Real que sur les paquebots à Miami.
Je connais Paco Bouillot, ça marche beaucoup moins bien.
Mais est-ce qu'il apparaît encore dans les émissions de
Paco Bouillot?
Non, il est vieux maintenant, il est
tellement vieux, quoi, il se montre plus, ça a tellement été un séducteur et tout, qu'il veut plus se montrer.
Grandiose. Il habite à Saint-Domingue, il a une grande maison.
Oui, il est enquillé, lui.
Ah oui, ça, c'est juste après Rocco, lui. Hein.
Ouais, il est pas loin, ouais.
Simonet, est-ce qu'on peut établir un lien entre ce que vit actuellement la Juve avec son titre, qui déchaîne pas les passions,
et Julio Iglesias,
et celui de la Juve?
Bah, alors, il y a un débat énorme en Italie sur les titres de la Juve, c'est-à-dire c'est un grand titre, c'est un titre qu'il faut célébrer, qu'il va fêter. Les supporters sont un peu divisés entre ceux qui disent oui, bon, ok, mais virons Allegri.
Il y avait suite,
après 10 minutes après la fin du match face à la Fiorentina, le stade était déjà en train de se vider, mais bien sûr il n'y avait pas en fait prévu la Piazza San Carlo, qui est la place, une des places principales de Torino, où en fait les titres de la Juve c'était à moitié vide samedi soir. Moi j'y trouve, et c'est mon avis tranché, que jusqu'à quand la Juve n'arrivera pas à avoir des équipes qui la mettent vraiment en difficulté, on peut pas demander d'avoir un jeu différent. Parce que en vrai, il y a tellement la culture du résultat en Italie, je pense beaucoup plus que dans d'autres pays, où vraiment c'est les résultats la seule chose qui compte au-delà de la beauté du jeu.
Ah non, là tu étais en train de dire tout à l'heure et tu as raison qu'il y a plein de gens qui sont pas pour cette idée-là.
Ils ont marre des Allegri. Mais ça c'est un autre discours.
Non, mais quand tu dis Sacchi, Sarri, tous ces entraîneurs-là.
Il y a un débat, mais au final après c'est le débat, ça existe. Mais en Italie, tu sais très bien, t'as 3 quotidiens sportifs, les télés 24 heures sur 24, les radios, si tu perds un match, c'est la catastrophe, c'est le désastre. On ne donne jamais du temps et du crédit aux entraîneurs pour travailler, sauf dans des équipes comme l'Atalanta, qu'on peut être les Torino, dont je vais parler brièvement après, donc, comme la Sampdoria, des équipes où il n'y a pas l'idée on doit gagner. Donc, jusqu'à quand cette équipe-là n'aura pas le temps de bâtir quelque chose d'intéressant à niveau du jeu, ils l'auront jamais. La Juventus sera suffisant, comme dit Allegri, de gagner. Ça suffit pas de faire de belles choses.
Et peu importe l'entraîneur qui sera à la tête de cette équipe, il y a trop d'écart avec les autres. C'est comme au PSG.
C'est comme au PSG, je pense, sûrement. Et la seule chose un peu différente qu'on a vue dans ces dernières.
Plus forte. parce que Naples c'est plus fort que toutes nos autres équipes de Ligue 1.
Ça, c'est des comparaisons compliquées à faire.
Peut-être pas sur cette fin de saison, mais en tout cas sur les premiers mois et tout.
Mais
il
la seule chose un peu révolutionnaire qu'on a eue sur cette dernière saison, c'était l'idée de Sarri de faire un certain type de jeu. Les sarristes l'appellent les commandantes, parce que c'est vraiment, ils voient en lui une idée de révolution. Mais généralement, nous, on a un peu...
Donc après les bielsistes, il y a les sarristes.
Oui, oui. Bah, les sarrismes, c'est un mouvement...
Ah bah, en Italie, on aime bien dire ça, le sacchisme.
Oui, oui, mais les sarrismes, c'est vraiment
c'est presque une idée de... Le girardisme ou le... ou le furlanisme.
Allez voir, il y a un compte Twitter très beau qui s'appelle les sarrismes, vraiment, le sarrisme.
On devrait développer ça.
Et c'est toujours, et ces surnoms-là sont toujours pour les entraîneurs avec style de jeu. Oui, quand on disait le Zeemanland, à l'époque.
Tu n'aurais jamais une allégrisme, tu l'aurais jamais.
Voilà, l'allégrisme, non. Parce que ça,
nous, on aurait quoi en France?
C'est juste le résultat. Mais on n'en a pas d'entraîneur. On n'a pas ces débats de pensée. Il n'y a pas d'entraîneurs qui ont des idées, qui se confrontent aux autres. Dites-moi, mais il n'y a pas.
Mais quand
Furlan peut-être.
Ouais, mais OK,
mais il aurait fallu qu'il représente l'équipe pour savoir,
et puis il aurait fallu qu'il y en ait d'autres avec lui et tout. Il y a pas de ce genre de débat des mecs qui représentent des écoles différentes.
Mais
en Italie, ils ont eu ces trucs-là.
Quand on parle des écoles différentes, on a fait des exemples, mais je sais pas si on a des infographies avec certaines de ces déclarations des derniers jours. Capello, Fabio Capello, il a dit Allegri est parfait à faire du vin avec les raisins qu'il a. Il étudie bien les adversaires, il lit bien les matchs, il devine presque tous ses changements. C'est-à-dire, il loue les travails d'Allegri, surtout parce qu'avec ce qu'il a, il fait toujours des résultats. Il a une idée tactique de choisir, décider les changements, lire les adversaires. Lippi, sur la polémique, est-ce qu'Allegri fait jouer mal son équipe? Il dit, on rigole. Gagner, c'est une belle façon de bien jouer. Critiquer Allegri, après 5 titres en 5 ans, en 5 ans de finale de Ligue des Champions, ça mérite l'asile. Le manicomio, c'est-à-dire l'hôpital pour les fous, c'est ça. Donc, il y a un vrai débat énorme. Et l'autre opinion, c'est Arrigo Sacchi, dont on parlait avant, qui dit un victoire sans beauté, hier sur le Corriere dello Sport, une victoire sans beauté, c'est pas une victoire. Allegri, un grand entraîneur, tacticien superbe, mais c'est du foot italien. En disant, les styles italiens, c'est un style, mais quel était les mots qu'il utilisait?
C'est ça qui va plus loin, c'est quand même un sacré intellectuel, quoi. Il développait des parallèles historiques sur pourquoi l'Italie. Pourquoi les, ouais.
Ça,
pourquoi ça joue comme ça? Pourquoi la peur domine souvent, justement, à cause du résultat? Et il disait, si on faisait...
Et jusqu'à quand tu restes enfermé dans ça, tu pourras jamais avoir une adversité à la Juve. La Juve pourra jamais aller vers ce niveau. Il restera toujours.
Sarri a essayé, mais il avait pas assez de joueurs de qualité. Mais Sarri a plus résisté qu'Ancelotti. Jusqu'au match où ils vont gagner avec la tête de Koulibaly l'année dernière.
Bien sûr.
On pense peut-être que Naples et tout.
C'était un
style complètement différent. Donc il y en a des styles différents. Le débat, il est alimenté. Il y a des preuves que c'est possible. Sauf qu'il a pas l'effectif qu'a eu la Juve. À un moment, ils étaient cramés, les mecs. Ils ont été cramés. Ils ont pas pu tout faire.
Conclu, Simonet.
Conclu. Il faudrait que ces jeunes entraîneurs, dont il y en a, comme dit Francesco, qui a été détruit cette année à la Roma par son club, comme Gianpaolo, qu'on peut être, pour moi, même Gasperini, qui est jeune dans sa tête, mais pas dans son âge.
Quel âge il a maintenant, Gasperini?
60 environ.
Ah, quand même, hein.
Puisse avoir l'occasion de travailler sur un grand club et faire progresser ses clubs pour donner, pas seulement à ces clubs-là, comme Inter, Milan, Lazio, Roma, mais vraiment à tous les footballs italiens, du bien-être et de la force en Italie et en Europe. Pour élever les jeux, et sans cette élévation du jeu, la Juve difficilement pourra changer, et on verra toujours la même chose.
23h19, Edouard de Lamont vient dans quelques instants. L'Union de Berlin va-t-il monter en Bundesliga? Griezmann a-t-il pris un jaune pour aller voir un match NBA? Higuain a-t-il fait exprès de se jeter entre les deux énormes boobs d'une supportrice après un but ce soir?
Higuain, on sait que de ce côté-là, il rigole pas.
La réponse de l'Edouard de Lamont dans quelques instants.
C'est connu, hein.
À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Simonet Rovera est là, David Lorto, Fred Hermel, Julien Laurence, c'est le rôle de l'âme, bien sûr, avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot. Chelsea, donc, fait 2-2 face à Burnley ce soir. La lutte à la Ligue des Champions continue en Angleterre. bon, c'est anecdotique, hein, mais enfin cette image va faire le tour du monde du foot. Donc Higuain marque un but, et là il se retrouve face à une supportrice, bras ouverts, venir une supportrice, comment dirais-je, bien dotée.
Sympa.
Et là il se retrouve avec le nez au milieu de la poitrine de la supportrice, donc évidemment.
Il marque pas souvent, il marque pas souvent, le pauvre.
Attends, analyse de l'image par Pierre Ducrot.
Il a ses partenaires qui viennent et qui lui agrippent les bras, etc. Donc il a plus aucun moyen de se défendre et d'éviter ça. Et elle lui met le nez dedans. Donc c'est pas du tout de sa faute.
Très bien. J'ai retweeté l'image pour une fois. Que ça intéresse. Oui, Julien, tu dis quoi?
Non, il a pris un carton jaune et
pour ça.
En plus. Sérieux? Voilà, bah oui, il va célébrer avec ses supporters, mais en général, tu célébrerais. Voilà, mais il a pas tout perdu, quoi, avec le carton jaune.
Faut appeler le VAR, là.
Mais il n'y a pas la vidéo.
Il a pas tout perdu avec le carton jaune.
Non, mais quand un joueur va péter avec le public, tu prends un jaune, tout de suite?
Ah bah oui, si tu sautes dans les tribunes comme il l'a fait là, tu prends un jaune.
Il n'a pas sauté dans les tribunes, il est resté au bord des barrières.
Non, mais il est quand même ici. Il s'est jeté vers les supporters, et donc après, il a... Mais au moins, il a pas tout perdu, quoi.
Bon, mais après, il était moins performant, hein. C'est-à-dire, on part toujours.
Ah oui, ça a déstabilisé un peu. Et surtout, il est sorti à la 75e minute, remplacé par Giroud, comme Sarri le fait très souvent. Mm-hmm. Et sur le banc, il était vraiment pas content. Il a jeté sa chasuble. Il était vraiment en colère. On l'a vu en colère sur le banc. Et voilà, je pense que il aurait voulu rester encore un peu sur le terrain, peut-être marquer le but de la victoire, qui aurait été très important pour Chelsea. Et Sarri, on a décidé autrement et Higuain n'était pas content du tout.
Bon, en fait, Chelsea revient dans les 4 premiers de la première ligue, là, avec ce match nul malgré tout.
Avec un match de plus en jouer, hein.
Ouais.
Bah oui.
Ah oui.
Vu que Tottenham et Arsenal et Manchester United avaient tous perdu, c'était l'occasion rêvée pour Chelsea de prendre un peu d'avance. Surtout que c'était ils ont un match de plus maintenant que les trois autres dans la course à la 3e et 4e place.
Point sur la course au titre entre City et Liverpool. Ils ne s'arrêtent plus.
Il ne s'arrête plus, hein. C'est vrai que c'est deux machines. Quand tu penses que si Liverpool gagne tous ses matchs encore jusqu'à la fin de la saison, ils auraient 97 points et pourraient quand même ne pas être champions, puisque si City gagne tous ses matchs, eux ils arriveraient à 98 points. Donc Liverpool voilà, serait pas champion avec une seule défaite dans toute la saison, 97 points et une place de dauphin au championnat, ce qui est, tu as raison, Lorto, on n'a jamais vu deux premiers avec autant de points à ce stade de la compétition dans toute l'histoire du football anglais, pas simplement dans l'histoire de la Première Ligue, mais dans toute l'histoire, on n'a jamais vu autant. Et s'ils finissent tous les deux avec 98 et 97 points, ce qui est quand même assez probable, en tout cas, c'est vrai que ce serait assez incroyable pour Liverpool de perdre le titre de cette façon-là.
Tu mises sur qui, toi?
Moi, je mise encore sur City. Le gros match, c'est bien sûr mercredi, le derby de Manchester à Old Trafford. C'est vrai.
Il y a tellement d'écart entre les deux là que.
Oui, mais après l'humiliation de United à Everton hier, c'est le match pour qu'ils réagissent devant leurs supporters.
United.
Voilà, ils sont au moins obligés dans l'agressivité d'être bien meilleurs qu'ils l'ont été dimanche, par exemple, où ils ont vraiment été humiliés. Ils avaient vraiment pas envie d'être là pour la plupart d'entre eux. C'est le match idéal pour rebondir. Vraiment, t'es dans ton stade en plus, t'es dans le derby. Et Solskjaer a été dur, donc c'est vrai qu'on va voir quel joueur il va prendre, quelle sélection il va faire, quelle équipe il va faire, mais tu peux penser que ceux qui seront sur le terrain au coup d'envoi auront vraiment envie de montrer un visage complètement différent de celui qu'ils ont montré à Everton pour ceux qui étaient.
Après, un petit peu de mauvaise foi, désolé de le dire, mais si tu gagnes face à City, tu risques d'aller en Ligue des Champions et tous les joueurs qui veulent partir de Manchester United cet été allaient être en Ligue des Champions, ça rend plus compliqué les choses. Donc
justement, c'est une question de poser par rapport à ça.
T'es vicieux.
Ah, je suis pas vicieux. Je vois les choses. Je vois les matchs.
Moi, ce qui me gêne,
Julien.
Ce qui me gêne. Ouais. Excuse-moi, Fred.
Ouais. Simplement par rapport à ça. Non, parce qu'en Espagne, on a beaucoup parlé. Parce que tu sais, ici, on suit de très près tous les mouvements et tous les clins d'œil ou les petits mouvements de chaque joueur prétendu par le Real. Pogba ne serait pas allé saluer les supporters après la rencontre. Et on interprète ça en Espagne comme voilà, il commence à être dans le bras de fer avec son équipe pour forcer son départ pour le Real Madrid. Est-ce qu'on en parle de ça en Angleterre?
Il était pas seul. Il y a que trois joueurs seulement qui sont allés saluer les supporters de United, qui eux ont vraiment fait bonne figure à Goodison Park dimanche, parce que malgré l'humiliation, ils ont continué à chanter jusqu'à la fin et ils ont vraiment été derrière leur équipe. Et c'est vrai que Pogba, comme je te dis, hein, comme la plupart des autres, ne sont pas allés les saluer ou au moins les applaudir à la fin du match. Tout le monde est rentré dans le vestiaire à part je sais pas, McTominay.
Il n'y a pas plus Pogba qu'un autre pour forcer son départ. Il n'y a pas une attitude de la part de Pogba qui laissera penser qu'il est déjà en train de préparer son départ.
Non, mais en revanche, il a vraiment en l'air en vacances.
Fred,
sincèrement.
Fred, il veut tellement voir Arjen Pogba.
Et... Non, mais c'est pareil.
Fred, il fonctionne comme les Espagnols. Il scrute tout.
Non, mais c'est ça, non, mais parce que si, tu sais, il n'y a plus grand chose à vivre, à part gagner la Ligue des Champions et la Ligue Europa, pour les Espagnols, il n'y a plus rien comme enjeu. Donc, on suit ça de très près, mais c'est vrai qu'on a le sentiment, et c'est pour ça que ça m'intéresse ce que dit Julia, qui, comme tu dis, qu'il est en vacances, et que voilà, qu'il n'en a plus rien à faire de Manchester United, et que c'est quand même un message.
J'ai vu Pogba au restaurant pour forcer son départ. Après, non, je veux rien dire, mais attention. Non, parce que nous aussi, on scrute, hein. On a plus de Ligue des Champions, on est en Ligue d'Europa League, donc on scrute tout.
Mais nous aussi, on scrute.
Ouais, non, mais de toute façon, on se scrute, nous aussi, on scrute, attention. Non, mais
franchement, c'est aujourd'hui, avec Pogba, c'est plus qu'une question d'argent. C'est plus qu'une question d'argent et de négociation. Parce que, il y a 90% de chances qu'il viendra l'année prochaine, vraiment. Et je pense que Julien est plutôt d'accord avec moi.
Je pense qu'il y a de fortes chances. Ce qui me gêne avec United, c'est l'attitude de Solskjaer. Qu'il soit pas content après une défaite pareille, c'est normal. C'est sûrement la pire performance depuis le départ de Sir Alex en mai 2013. Donc même sous Moyes, même sous Van Gaal, même sous Mourinho, je ne les ai très rarement vus jouer aussi mal que dimanche. Et après, mais après, c'est que la faute des joueurs. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui sont pas au niveau. Moi, je vais réussir dans ce club, mais la plupart des joueurs qu'on a vu aujourd'hui, ils seront plus là. Il y a aucune remise en cause de Solskjaer, mais depuis qu'il est arrivé, hein, quand ça allait bien, c'était grâce à lui, et depuis que ça va mal, c'est à cause des joueurs et pas à cause de lui. Et je trouve que c'est
ça annonce pas un futur radieux du côté United, ça. Hein.
Mais tu sais, par exemple, un joueur comme un consultant comme Jermaine Ginas, qui a arrêté sa carrière il y a très peu de
temps,
consultant international anglais, il est consultant maintenant, il a dû arrêter sa carrière un peu prématurément parce qu'il avait des blessures, mais qui est une voix qui commence à compter de plus en plus en Angleterre, qui au départ était plutôt pro Solskjaer, qui trouvait que c'était une très bonne idée de lui avoir donné le job de manière permanente. Depuis quelques jours là, commence à dire, mais je me demande vraiment si c'est le bon choix, parce que depuis le match du PSG, donc où il a eu le contrat, il fait n'importe quoi. Solskjaer, en tout cas, alors c'est vrai que les joueurs sont aussi forcément, ils ont une part de responsabilité, mais Solskjaer aussi dans son coaching, dans son management, dans ses déclarations publiques d'après match, où il dit encore une fois, hein, encore dimanche là, c'est de la faute des joueurs, ils sont pas concernés, ils sont ceci, ils sont cela. Moi je vais réussir dans ce club, je vous le dis, je vais réussir à Manchester United, et ce sera sans la plupart de ces joueurs qu'on a vu aujourd'hui. Et à chaque fois, tout est de la faute des joueurs, jamais de sa faute, c'est jamais lui qui a fait quelque chose. Et, je trouve ça un peu dommage.
La série de Manchester, elle est terrible, hein, parce qu'il y a cette performance, mais la série de matchs là, elle est terrible.
6 défaites en 8 matchs.
Pour conclure, j'ai une question d'Yannick sur Direct Studio. Quel est le pire pour les supporters d'un United? Liverpool champion ou City champion?
C'est une très bonne question, Yannick.
Pour les supporters de Liverpool?
Non, de United.
De Manchester United.
Ah bah oui, ils veulent
donc
jamais.
Déjà, c'est
ils veulent jamais que ce soit
les deux, c'est le pire.
Ils préfèrent encore City.
Voilà, c'est ça. Voilà,
Liverpool,
c'est vraiment le pire pour eux, quoi.
Ils les détestent vraiment.
C'est le pire pour eux. Quoi qu'il arrive, les deux, c'est le pire, de toute façon. Parce que mais je pense que c'est encore pire.
City, ils ont du mépris pour Liverpool, c'est de la haine, c'est pas pareil.
Et puis surtout, City sont très loin derrière au niveau des titres gagnés. C'est très très loin derrière. Alors que Liverpool, c'est les deux clubs les plus prestigieux.
Pareil en Italie pour les supporters de l'Inter, entre la Juve et Milan presque.
Juve, c'est le pire.
La Juve, c'est le pire.
Et ouais.
Ouais. Et Sir Alex donc avait fait un travail juste pour finir
pour
magnifique pour ramener Manchester United au même niveau que Liverpool avec le nombre de titres de champion d'Angleterre gagnés et même les dépasser, donc puisque ils les ont dépassés lors du fameux 20e titre gagné avec Fergie. Et c'est là tu voyais Liverpool revenir un petit peu dans ce mano à mano des clubs avec le plus grand nombre de titres de champion d'Angleterre. Juste pour ça, je pense qu'ils préfèrent que ce soit City qui gagne le championnat.
David Lorto, est-ce que tu as conscience que Franck Ribéry pourrait gagner pour la 9e fois, et ce serait un record?
Eh oui.
Le titre de champion d'Allemagne cette année.
Oui, Schweinsteiger est à 8, Kahn aussi. Philippe Lahm est peut-être resté à 7 ou 8 aussi. Oui, ça serait un record.
Mais est-ce qu'en Allemagne, il y a même débat qu'on a
9 fois
en France et en Italie, comme disait Simonet, sur la banalité d'être champion pour le Bayern et l'écart qu'il y a avec les autres? Est-ce que ça fait le même débat qu'ici?
Oui, quand même.
Et qu'en Italie?
Quand même, parce que tu as cette espèce d'écrasement et on est toujours un peu inquiet dans les éditos au cours de la saison. Quand le Bayern prend quelques points d'avance, on se dit, oh là là, si le suspense est tué.
Et est-ce qu'on voit des clés pour que ce soit plus
aussi
simple?
Cette année, c'est pas fait, hein.
Ouais, non, cette année, c'est pas fait.
Non, c'est pas fait. Et en tout cas, il y a eu un duel, ouais, voilà.
Ouais, mais justement, si à l'arrivée, alors, malgré le duel, c'est encore le Bayern qui gagne,
si on voit
t'as le sentiment que tu pourras jamais y arriver.
Si on voit des clés, c'est pas en pénalisant le Bayern, c'est en invitant les clubs qui sont susceptibles de
Et comment tu les invites?
Vers le bord, on est d'accord. Hein.
Eh ben, tu fais des éditos à longueur de week-end, dans les, enfin des émissions de télé, notamment à longueur de week-end, en disant Schalke, vous êtes bien gentil, va falloir arrêter de faire des bêtises.
Bah oui.
Hambourg, va falloir arrêter de faire une gestion à l'emporte-pièce.
Tu veux dire, c'est tous des clubs qui ont de l'argent.
Mais oui, alors pas
un club comme Schalke, c'est quoi le but? C'est gros le budget?
C'est non, enfin
non,
c'est gros comparé à, si tu veux, à en Allemagne, oui,
Schalke, c'est plus
mais
de
t'es loin du
quand même.
Oui, bien sûr.
Ah ouais, mais c'est des gros clubs, quoi.
C'est 150, c'est 180.
Ils sont 15e sur 18, là.
Tu te rends compte, c'est
ouais. Schalke, ils vont se sauver parce que les trois équipes derrière sont
classement, ils ont plus de 150. Des fois, on dit en France, les mecs mais, sont, avec les gros budgets sont mauvais, mais là.
En fait, la jalousie vis-à-vis du Bayern, c'est une erreur parce que si le Bayern est à autant d'avance, c'est parce que lui a avancé progressivement. C'est pas parce que d'un coup, il a ouvert les vannes et il a augmenté son budget par deux. C'est que petit à petit, au fil des décennies, ça s'est construit, ça s'est installé avec une
fois. Ils ont quand même acheté les meilleurs joueurs des autres aussi.
Oui, c'est vrai.
Le Bayern a quand même aspirer les meilleurs joueurs.
Bundesliga.
Bah, oui, voilà, quand même,
c'est pas le seul club à faire ça. En Bundesliga, t'en as d'autres qui font ça. D'autres font ça.
Mais les autres ont des moyens. Les autres ont des moyens. Dortmund, c'est un énorme budget. Schalke, c'est 150 ou
oui,
plus.
Oui, 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 oui.
T'en as des clubs qui ont de l'argent en Allemagne. Après, oui.
C'est des erreurs de management qui sont terribles.
Alors attention, parce que faisons quand même. Là, il reste 4 matchs.
4 matchs.
Il y a un point d'écart.
Ouais.
Là, tu nous dis quoi ce soir?
Ils ont quoi,
J'ai été tellement brillant cette saison dans les pronostics.
Ouais.
C'est plus facile au niveau du calendrier pour le Borussia Dortmund, qui va jouer contre Schalke. Ça, c'est le match un peu spécial, mais il y a un tel écart qu'on peut estimer que Dortmund va
s'imposer. C'est
toujours un peu compliqué. Match compliqué contre Brême. Ok, mais alors derrière, il y a Düsseldorf. Ce sera logiquement simple, en plus, à Dortmund.
Des
et
gâteaux.
Puis, un déplacement à Gladbach. Si Gladbach a encore quelque chose à jouer, c'est pas évident.
Ah, si ça, c'est facile, mais ils ont
oui,
quoi, Bayern?
Oui, sauf que le Bayern, c'est plus dur. Parce
ah
que
bon
le Bayern va terminer 33e et 34e journée à l'extérieur à Leipzig, qui joue la 3e place.
Ah.
Et contre Francfort à la maison la dernière journée. Et si Francfort devait sauver une 4e place synonyme de Ligue des Champions l'année prochaine, vous imaginez l'événement à Francfort de se qualifier l'an prochain pour une Ligue des Champions. Ça fait quand même deux matchs compliqués pour le Bayern en toute fin de saison.
Ah, d'accord, ouais.
Même si avant cela, il va y avoir le derby contre
Rennes. Il y a vraiment de suspense.
Et Hanovre. Oui, il y a quand même encore du suspense. Et Gilbert,
si ça
a raison
pas
de
la dernière
titiller
journée,
parce
que tu viens de dire.
Pronostic compliqué quand même.
Francfort a un effectif suffisant pour lutter comme ça en Bundesliga et jouer l'Europa League en même
messieurs,
temps.
On a eu un indice important ce soir. Ils avaient un match, le match du lundi, je vais en dire un mot d'ailleurs. Match du lundi, parce que tout le monde en Allemagne est vent debout contre ces matchs du lundi. Francfort jouait ce soir à Wolfsburg, a ouvert le score de façon un peu miraculeuse. On savait que les joueurs étaient fatigués. Il y avait 9 sur 11 qui étaient au coup d'envoi de Benfica il y a 4 jours. Donc c'était compliqué pour Francfort. Ils ont craqué à la 90e. Ils ont pris un but, un partout. Mais à l'extérieur, c'est quand même une bonne opération. Et ils ont un tout petit matelas d'avance pour la 4e place par rapport aux poursuivants. Et Dieu sait s'il y en a. Il y a Hoffenheim, il y a Gladbach. Et il y en a un ou deux autres aussi. Un mot sur ce match, petite parenthèse rapide Gilbert, parce que l'histoire va vous amuser. C'est Ostermontag aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques, comme partout dans le monde catholique, chrétien. Mmh. Et on dit en Allemagne, wir brauchen Eier, quand on a besoin de grosses testicules. Eier, ça veut dire les œufs en allemand. C'est une phrase célèbre d'Oliver Kahn qui avait dit à un moment, maintenant on a besoin de montrer nos coucougnettes et nos bonbons. Et ce soir dans le stade de Wolfsburg, il y avait une banderole qui disait les matchs du lundi, on s'emballe les cacahuètes.
Les œufs.
Et figurez-vous qu'avant le match, les supporters qui étaient là au stade ont envoyé sur le terrain des dizaines d'œufs de Pâques. C'était une espèce de mix entre le lundi de Pâques et c'est le même mot en fait en allemand, les œufs et les testicules.
C'est rigolo. Ça.
Et du coup, pour se moquer gentiment du match du lundi qui est détesté en Allemagne parce qu'on estime que c'est la télé qui prend le pouvoir, etc. On a décidé de protester de cette façon-là. J'ai trouvé ça plutôt poétique.
Bon, enfin, les stades en Allemagne, ils sont pleins tout le temps quoi qu'il arrive. Donc,
sauf ce soir où c'était moitié vide.
Puis les télés qui prennent le pouvoir, c'est ce qui fait les budgets des clubs.
25 000 personnes.
Ce sera le sujet de l'after de jeudi, ça d'ailleurs.
C'est marrant que
on est d'accord,
si vous êtes passionné par ces sujets, jeudi ce sera dans l'after.
Ça, c'est quand même toujours étonnant, ce genre de réaction.
Bah oui.
Donc Francfort,
c'est comme les, tu sais, les entraîneurs ou les agents qui te disent, ah ouais, mais faut protéger les joueurs des médias. Mon pote, sur les médias, ton mec, il n'est pas payé.
Ouais,
donc
il vaut que dalle. Mais bon.
Mais bon.
Très bizarre.
Mais il y a une grosse protestation sur les matchs du lundi en Allemagne
quand même.
Et pour répondre à ta question, Pierre, Francfort, oui, ils ont les moyens de jouer sur les deux tableaux parce que tu as quand même, il y a quand même un banc. Alors des joueurs moins connus, il y en a un qui parlerait à Nico Villas, qui est international portugais, qui est Paciência, dont on a parlé à l'occasion du match contre Benfica, par exemple. Ce soir, il y avait
l'ancien
encore pas Sébastien Haller. Oui.
Il s'est immédiatement pris la tête avec les mecs de Benfica quand il est entré. Forcément.
Tu as un joueur comme Haller qui est pas encore de retour, qui pourrait être là pour la fin de saison. Voilà, ils ont quand même un peu de banc à Francfort. Et puis ils ont Kevin Trapp qui peut faire des miracles dans les buts. Et messieurs. Et oui.
Ah merde, on l'avait pas, on ne savait pas.
Un petit tour sur le hashtag RMC Live. On me dit attention, en France il y a quand même des courants. Java me dit et Jean-Claude Suodo alors. Le suodisme.
Ouais, enfin bon, ouais.
Ah, et Denoix me dit Pierre.
Oui, mais c'est la même maison.
C'est la même chose. Ouais, c'est le suodisme aussi.
Ben oui.
Il n'y a qu'une seule maison. Ouais. Quoi.
Et le Jean-Louis Gassettisme me demande non, là non.
Non, mais Suodo, oui. Suodo,
en
oui.
fait, Trapp, malgré le transfert à Francfort, elle est restée, Madame Trapp. S'il y a moins de shopping à faire là-bas. Et
là,
tout,
non, mais là, tu vas sur un terrain qui n'est pas le terrain du football. Et là, j'ai moins de connaissances, nécessairement.
Ah, t'as
non, mais c'est pas bien ça.
Oui, mais je suis d'accord.
Un grand correspondant comme toi,
il doit être bien.
Ah ouais.
Bon, non, mais dans ce dossier-là,
il y a des femmes qui n'aiment pas les transferts dans les villes où c'est moins.
C'est comment Francfort, c'est une belle ville.
Ah oui. Ouais, ça s'est modernisé.
Une épouse de footballeur. C'est le shopping, t'es plus en carrière, tu sais bien.
Non mais attendez, moi il y a un truc qui m'énerve par rapport à ça. Je veux dire, moi on se moque des femmes de footballeurs, mais il est tout à fait normal que quelqu'un dans sa profession, qui a une vie de famille, pose la question à son conjoint par rapport à son avenir professionnel, l'endroit où ils vont vivre. Enfin, là-dessus, enfin, je vous ai souvent cité l'exemple d'Erika, la femme de Griezmann. Il n'est pas à Manchester parce que elle voulait pas être dans une ville où il fait noir l'été à 15h40. Quoi, ouais, voilà.
Manchester,
donc,
c'est rude.
Enfin, l'hiver,
il y a deux joueurs
donc,
comme ça. Hein. Oui, il y a deux joueurs comme ça aussi. Hein.
Mais c'est logique, mais n'importe qui, enfin moi je n'ai pas la chance d'être en couple, donc je fais un peu ce que je veux.
Mais s'il y en a qui continuent de considérer que la vie privée des joueurs n'a pas d'impact sur ce qui se passe sur le terrain.
Eh Fred, regarde Celnaes, le mec il vient de Rosenborg, il fait nuit à 14h, il arrive à Saint-Etienne, il dit mais Saint-Etienne c'est vraiment nul, alors que lui il vient de Rosenborg, alors Rosenborg c'était quoi, c'était un truc de ouf quand même. Rosenborg c'est moins 5 ans, il fait nuit à
15h.
Rosenborg c'est
pas mort quoi.
C'est
Trondheim
les gars.
Il y a tellement de trucs et tout. C'est
Trondheim la ville d'ailleurs, Rosenborg c'est le club.
C'est vrai, c'est Trondheim.
Pas bon. C'est au nord, quoi.
Enfin, bon, bref, c'était n'importe quoi.
Et c'était pas les cons, un Trondheim.
Parce
que Saint-Etienne aussi, tu vois.
Dans quelques instants, on est de retour avec Fredo, bien sûr.
Avec Griezmann.
Avec Griezmann. A-t-il pris un jaune pour aller voir un match de NBA? Fred a la réponse. Et c'est tout de suite dans l'after.
RMC. L'after-foot. Gilbert Bribois.
Les jusqu'à minuit, Direct Studio. Beaucoup de monde ce soir qui est sur Direct Studio qui réagit. J'ai Rarecho qui lui dit, nous au TFC, on a un casanoviste. L'idée, c'est de jouer comme le Barça, mais avec des fers à repasser. Ah, du coup, on joue la descente depuis 10 ans. Dit-il. Qui est pas totalement dénué de...
Ah, mais moi, je connais ça. Ça s'appelle bon le guardiolisme. C'est-à-dire que tu veux jouer comme si t'avais Messi, mais t'as plus Messi.
Oui.
Eh ben voilà.
Ouais, c'est assez pertinent hein, sur ce qui s'est passé depuis.
Ben oui, exactement.
Guardiola, c'est
Fredo.
C'est exemple négatif en Italie. Aujourd'hui, quand, pour justifier l'élimination de la Juve, on dit oui, mais regardez Guardiola. Un peu comme Tuchel dit regardez la Juve.
On va pas commencer, on va pas commencer. Simone, on va pas commencer.
Non, ben écoute. Chacun balance les autres.
Hein. Oui, Tuchel, c'est ça. Bah, c'est pour s'excuser des trucs, t'as ta clause.
Il y a aucun club en Italie, si il a l'opportunité de prendre Guardiola, qui dirait non. Il n'y a aucun supporter italien qui ne prendrait pas Guardiola.
Le monde qui refuserait Guardiola.
Il peut payer Guardiola, mais bon,
Liverpool peut-être.
Mais c'est tout. L'Oréal.
Oui, évidemment. Mais je crois même que c'est Guardiola qui irait pas. Enfin, les deux. Enfin, voilà, n'en parlons même pas. Il n'y a pas de possibilité.
Bon, attends, faut jamais insulter l'avenir, hein.
Là, dans ce cas précis, moyen quand même.
Un mec qui est payé par qui on sait, qui t'explique que l'Espagne est une dictature.
Ouais, voilà. Ouais, non,
c'est un peu compliqué.
Là, lui, il est vraiment indépendantiste catalan dur, quoi.
Ouais. Mais quand il portait le maillot de l'Espagne et qu'il touchait ses primes et qui.
Beaucoup de mecs du Barça. Qui chie sur l'Espagne et qui porte le maillot d'équipe nationale.
Alors qu'il y a beaucoup de mecs du Barça qui n'ont jamais chié sur l'Espagne, qui ont été de très grands joueurs de la sélection espagnole. Hein. Hein, Puyol, Busquets, Iniesta, Xavi un peu après, il a un peu ouvert sa gueule, mais il y en a plein qui ont été, comme beaucoup de Basques d'ailleurs, qui ont été des piliers de la sélection espagnole au travers de l'histoire. Quoi. Mais Guardiola, c'est vraiment le plus indécent à ce niveau-là.
Alors, cette histoire de Griezmann, là, vrai ou faux?
Non, sincèrement, ça devait peut-être l'arranger. Alors, il avait provoqué un carton la semaine dernière. Parce qu'en Espagne, ce sont des cycles de 5. Au bout de ton cinquième carton, t'as automatiquement...
Alors, on sait que le concept de provocation du carton pour calculer ta suspension, ça existe. C'est un concept espagnol.
Mais c'est un concept tellement espagnol. Après, je vais raconter une anecdote que j'ai apprise ce week-end.
Bon,
j'ai
appris ce week-end. Partout.
Donc, en fait, Griezmann...
C'est les meilleurs.
Ouais, mais c'est pour voir quel match de NBA.
Les Nets contre
Brooklyn,
mais je vais raconter l'histoire. Ouais,
Brooklyn contre
les Sixers.
Contre Philadelphie. Ouais. L'histoire. Griezmann avait provoqué un carton contre le Celta Vigo. Il a manqué le match à Ibar de ce week-end. Mais attention, le match suivant, c'est une magnifique affiche. Atlético contre Valence. Donc, ça arrive souvent que les joueurs provoquent un carton pour bien être sûr d'arriver tout propre pour le gros match. Je pense plutôt, connaissant Griezmann, qu'il a plutôt pensé au côté sportif. Bon, puis finalement, ça a arrangé d'avoir quelques jours de vacances et de pouvoir aller voir un match de NBA. Parce que lui, c'est vraiment un grand malade de basket et de la NBA, quoi.
C'est ça. Il voulait pas prendre le risque de prendre le jeu au mauvais moment et de louper le match de Valence.
Voilà.
C'est
tout, voilà. Donc, je pense que la question, elle est plutôt sportive, une tactique sportive, plutôt qu'un souhait personnel.
Et ça existe partout et dans tous les pays. Alors peut-être que les Espagnols ont commencé, ils font mieux que personne, mais ça a toujours existé à tous les niveaux et partout.
T'as déjà fait ça, toi?
Non, moi j'en prenais trop pour pouvoir viser.
Alors tu sais qu'il y a les arbitres, il y a un arbitre très célèbre en Espagne qui s'appelle Iturralde González, qui a été vraiment l'un des grands arbitres espagnols, quoi. Celui qui avait le plus de gouailles, etc., qui était vraiment un acteur du jeu. Et il est commentateur aujourd'hui à la Cadena Ser, et ce week-end il racontait à la radio que c'était très fréquent que des joueurs viennent avant les matchs en disant franchement, j'ai envie de prendre quelques jours là, tu me mets un carton hein s'il te plaît, comme ça je loupe. Et il racontait l'exemple de Davor Suker qui jouait à Séville, et il y avait le dernier match de la saison, il voulait partir en vacances en une semaine d'avance, et donc il avait demandé à Iturralde González avant de lui sortir un carton. Donc il provoque le carton, il prend le carton, et après il se retourne contre le public en disant mais qu'est-ce que tu fais, etc. Donc il montrait toute l'hypocrisie qu'il y a par moment dans les relations entre les arbitres et les joueurs. Mais c'est vrai que faut pas oublier que ce sont des êtres humains, que pour certains ça fait 10 ans qu'ils se connaissent, qu'ils se rencontrent, qu'ils se voient dans les matchs, et qu'il y a des complicités qui naissent, et que parfois il peut y avoir des petits arrangements comme ça qui sont pas de l'anti jeux, mais qui sont des trucs un peu rigolos, quoi. Donc voilà, on oublie parfois que ce sont des gens qui vivent ensemble, qui sont dans le même milieu, et c'est normal qu'il y ait des incointances et parfois même des connivences.
Bon, balayons donc cette histoire qui mine de rien a fait beaucoup causer. Alors on ne peut que parler ce soir de Karim Benzema.
Ah ouais, je vais avoir un petit jingle quand même, parce que
évidemment, jingle Fred Hermel.
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Espagnola.
Faut profiter parce que bientôt c'est peut-être fini.
Ouais. Jusqu'à preuve du contraire.
Alors, Benzema. Ah,
mais c'est Karim, et puis c'est plusieurs joueurs français. Vraiment, c'était le French Liga ce week-end. Bon, bah Karim Benzema, franchement, Dieu sait si j'aime ce joueur, si j'aime ce mec. Mais là, il m'épate encore. Il étonne même Zidane. Ce qu'il a fait ce week-end dans un match encore assez pitoyable du Real Madrid, il a pris les choses en main. Il a marqué un hat-trick. Dont deux buts de la tête assez impressionnants, qui font de lui, avec 11 buts, le meilleur buteur de la tête des 5 grands champions européens. Donc la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Donc c'est le meilleur buteur de la tête.
Je ne savais pas que les stats de la tête, c'était important.
Ah bon, l'Espagne, on suit aussi toutes les stats.
Donc, je ne savais pas qu'il y avait un classement de buts de la tête.
Et j'ai posé la question à Zidane après en conférence de presse.
Classement buts de la tête.
Et Zidane répondait, qui me dit, écoute, je vais dire que je ne savais pas qu'il était si fort de la tête. C'est dire si l'absence de Cristiano Ronaldo a changé Benzema, comment il a appris des choses en une saison. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, dans ses mouvements, dans sa manière de se placer, il est meilleur de la tête qu'il y a un an. Parce que il a la place pour le faire, et il a le droit de le faire, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Mais surtout, franchement, quand je vois As, je suis chroniqueur As depuis 20 ans, ce sont mes amis, mais je me suis souvent engueulé avec eux pour les campagnes anti-Benzema. Et là, même As fait une dithyrambique sur Benzema. Enfin, ce qu'il fait cette saison, c'est pas simplement dans le jeu, c'est pas simplement dans les buts. Il est deuxième meilleur buteur de la Liga, derrière Messi. Il est à 30 buts cette saison. Il est à 2 buts de son record personnel en une saison, toute compétition confondue. C'était 2011-2012. Il reste 5 matchs.
Est-ce que je peux te donner une idée d'article, Fred?
Vas-y.
Que tu développeras dans As. Je sais pas si, je pense que tu vas évidemment pas bien prendre ce que je vais dire, et je sais pas si tu vas comprendre, mais
que c'est pas bon,
est-ce
signe
que tu pourras poser la question? Benzema fait une saison extraordinaire l'année où le Real est catastrophique. Pourquoi?
Pourquoi? Alors, pour une raison très simple, c'est que Benzema est le seul qui... Je vais même te dire, je vais retourner la chose. C'est d'autant plus grandiose que Benzema fasse une super saison, parce que dans le jeu, c'est terrible, et il crée lui-même ses buts. Donc, ce Benzema-là...
Je me demande juste pourquoi il... Voilà, c'est une
parce
question.
Parce qu'il est le seul à avoir la dignité que beaucoup de gens
n'ont pas eu. Non, mais attends, moi, je vois autre chose, c'est l'absence de Cristiano.
Mais bien sûr, mais c'est ça la vraie raison.
Benzema
la vraie
fait une
raison,
saison de dingue l'année où le Real dans le jeu et où le Real fait une.
Mais il a des meilleurs stats sans Cristiano, c'est assez logique qu'il ait des meilleurs stats alors qu'il y a Cristiano à côté.
Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire que si Benzema est ton meilleur joueur, c'est pas bon pour ton équipe collectivement, c'est ça?
Écoutez, moi j'ai posé la question, je sais que ça va pas être compris et que je vais me prendre des valises insultes du team Benzema, mais je pose juste cette question.
Non mais moi je te dis
non mais toi je sais, toi t'es trop fan pour
Madrid,
me répondre.
Non mais c'est pas
non,
moi
mais moi je me pose la question.
Pour moi c'est toujours plus dur de faire ce que fait un Karim Benzema aujourd'hui dans une équipe qui tourne mal.
Qui fonctionne pas.
Ouais, oui, voilà, dans une équipe qui tourne mal que dans une équipe qui tourne bien.
Bien sûr.
Il aurait été dans le Real qui tournait bien, mais sans Cristiano Ronaldo, je pense qu'il aurait eu des stats énormes.
C'est ta réponse, ouais. Je l'accepte.
Je pense, hein. Je l'accepte,
mais vous m'empêchez pas de me poser cette question.
Tu poses la question.
Mais tu sais ce qu'on va faire, Daniel?
C'est le meilleur du Real, l'année où le Real est mauvais.
Si Dieu nous prête vie, on sera encore là l'année prochaine.
Dans un rôle d'assistant, le Real était très fort, et Benzema l'assistant était fort aussi. Mais le Real était nettement meilleur.
Mais il avait des moins bonnes stats perso.
Oui, mais c'était pas gênant pour le Real.
Normal, parce qu'il y avait un garçon sur le terrain de place.
Mais là, il y avait pas que lui. Fin de cycle Real Madrid.
Et Benzema était très fort dans une équipe où avant lui, tu pouvais mettre au moins 6-7 joueurs. Ça l'empêchait pas lui d'être bon.
Est-ce que le retour de Zidane, parce que là,
il est numéro 1.
Non, mais il y a aussi autre chose.
Cette année,
retour de Zidane.
Cette année, il est numéro 1. Non, mais il était bon même avant que Zidane.
Mais là, il a 8 buts consécutifs.
Il était bon, non, mais il était bon.
Ah oui, c'est un record. Ça, c'est un truc de malade.
Il était bon.
C'est
que. Non mais les séries de records, essayons de parler de jeu.
Non mais ça porte. Mais non,
c'est bon,
mais
records,
alors quand on parle,
alors
excuse-moi, quand c'est
Twitter,
un autre, non mais
c'est
quand
bon.
C'est un autre, quand non, c'est un
connaît,
autre, il faut toujours qu'on parle de stats.
Il est super, non, non, ok, mais, les chiffres non, sont ça, magnifiques.
Ça, mais ça c'est un chiffre qui n'existe pas. C'est-à-dire que pour la première fois depuis la création du RAL en 1902, un joueur a marqué à lui seul les 8 derniers buts de son équipe. C'est-à-dire que depuis le 31 mars, il n'y a que Benzema qui a marqué au Real.
Il y a eu quelques bons joueurs.
La dernière fois que c'est arrivé, c'était Pierre Ducrot au Havre.
Putain, si c'est possible.
Bon, OK. Si les donc, si les stats à la con vous intéressent plus que les
débats, mais
non, attendez, excuse-moi. Il rentre dans l'histoire du Real Madrid là, donc bon, mais pour répondre à ta question, on verra la saison prochaine avec un Real qui fonctionne mieux, parce que automatiquement il y aura de nouveaux joueurs et ça avec Hazard, avec Pogba et tout ça, et on verra si.
OK, très bien. Bah déjà la réponse m'intéresse plus, on verra l'année prochaine et je pense que si le Real redevient fort, Benzema ne sera pas dans les 4-5 meilleurs joueurs de l'équipe.
Eh ben, on verra l'année prochaine.
Comme ça l'a été sur toutes ces dernières années. Mais ça ne diminue pas. Mais ce que je veux dire, je sais que ça va pas être compris, mais c'est pas grave. Je fais pour les gens intelligents. Ça ne diminue pas son apport.
Ça y est, on est con.
Mais non, je t'ai pas mis de toi. Je mets les supporters de Benzema qui sont exclusifs. Mais ça ne diminue pas son apport.
Non,
ça diminue son apport.
C'est même
je dis juste que
tu sais ce qui s'est passé en
plus,
Daniel, cette année
pour être le numéro 1 d'une équipe.
Eh ben,
et c'était,
ah ben
et c'était le même problème qu'il l'a bloqué en équipe de France. Parce que quand il y était, il n'était pas terriblement bien entouré. Et c'était lui qui était en gros, on va dire, il aurait été bien meilleur dans la dernière Coupe du Monde, par exemple.
Bah tu te contredis alors, Daniel.
Bah oui.
Il n'était pas suffisamment entouré, donc il aurait dû être énorme. Comme au Real aujourd'hui, où
quand Benzema était au top en équipe de France, t'avais pas Griezmann au top, Pogba au top, Mbappé au top autour de lui. Ce que veut dire,
il est mieux quand il est, pour le bien de l'équipe, je te parle. C'est comme une sorte de
tu veux dire, c'est le
copie, de l'effectif,
c'était le Scottie Pippen de Cristiano, pour résumer.
Ça, je l'ai toujours dit que c'était le Scottie Pippen, même si les pros de NBA
mais sauf qu'aujourd'hui, il est devenu Michael Jordan. Parce que tu sais ce qui s'est passé, et là, c'est un point, puisqu'on parle jeu. Le jeu, c'est aussi le caractère. C'est-à-dire, il est vraiment le capitaine de cette équipe cette saison. Vraiment, parce qu'il est troisième dans
l'hierarchie. Justement, c'est l'année où le Real n'est pas bon.
Mais tu trouves ça pas bien que justement, alors que des mecs démissionnent.
Moi, je trouve ça bien. Je trouve que
Benzema montre un caractère
magnifique. C'est pas ça que je dis.
Certains ne lui soupçonnent.
Je dis qu'il n'est pas fait pour être le meilleur d'une équipe sur le toit du monde. Et quand il était adjoint, on va dire, le Real était nettement meilleur.
Enfin, mais franchement, là, c'est vraiment pour chercher la petite bête.
Mais c'est pas la petite bête, c'est un constat.
Bon, alors, passons au dossier suivant.
l'anglais ou Lemar, pour parler des autres français.
Ah oui, tu voulais parler de l'anglais, absolument.
Ah ouais. Et l'anglais, on se dit, il y a eu une réflexion d'un journaliste catalan qui a aussi un agent, etc. Enfin, bref, hein, une voix du football catalan, qui disait finalement, recruter un Coutinho, recruter un Dembélé, c'est un peu à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que bon, ce sont des joueurs qu'on connaît, qui ont fait de belles choses, etc.
Non, c'est vrai,
mais
ça,
recruter un Arthur Melo ou recruter un Clément Langlais qui vient de Nancy, qui a fait une saison à Séville, il faut être bon. Et il faut dire que il a raison. Le Barça était très bon. Parce que franchement, au niveau de recrutement, Arthur Melo, c'est vraiment pas mal. Mais Clément Langlais, ce week-end, qui marque son deuxième but de la saison, premier but en Liga, qui fait une saison absolument magnifique. Je vous ai déjà expliqué comment il a pris la place d'Umtiti, qui avait ses problèmes de blessures, etc. Et qui s'est imposé aujourd'hui. Et que désormais, on ne voit pas qui va pouvoir déboulonner Clément Langlais de sa place de joueur phare, de défenseur titulaire au sein de la chaire centrale du FC Barcelone. Donc voilà.
C'est marrant, les deux gars dont tu parles, ils sont pas du tout en équipe de France. À chaque fois, c'est vrai que c'est
un truc de fou que l'anglais n'y soit pas, mais c'est en Espagne.
Bah, si, c'est parfaitement compréhensible par rapport au style de l'équipe. Je suis désolé.
Ça
n'est pas incompréhensible.
Dans le déchampisme,
l'anglais n'a pas sa place.
Oui, mais est-ce que l'anglais qui a montré une capacité d'adaptation extraordinaire en s'intégrant rapidement à la Liga, en s'intégrant au jeu de Séville et en arrivant à Barcelone et en s'intégrant au jeu de Barcelone, tu crois pas qu'il a peut-être pas l'intelligence de s'intégrer dans une équipe de France, même si le style est un petit peu différent de celui du FC Barcelone.
Mais ça demande appel des gens et t'en discute avec lui. Hein.
Voilà, mais moi, simplement pour dire qu'en Espagne, et je vais conclure là-dessus sur l'anglais, on considère, en tout cas du côté de Barcelone, que l'anglais va peut-être devenir l'une des meilleures recrues de ces dernières années par rapport à l'investissement qui était fait, etc. En disant voilà, c'est un recrutement qui est arrivé un peu de nulle part, et ben finalement on voit que ça marche et bravo aux dirigeants du Barça qui l'ont très bien choisi. Et un petit mot sur Thomas Lemar.
L'anglais, Julien français, Laurence, on en parle chez toi.
T'as compris?
Ouais, j'ai compris, mais c'est tellement pourri que je voulais rien dire, mais bon, je suis obligé de dire, je suis obligé de dire quelque chose. Non, mais les Anglais, juste rapidement, pour Aymeric Laporte, par exemple, même s'il s'est troué contre Tottenham, comme on l'a vu, mais il fait une excellente saison, et les Anglais, de la même manière que les Espagnols ne comprennent pas pour l'anglais, les Anglais ne comprennent pas pour Laporte non plus, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en équipe de France?
C'est le déchampisme.
Voilà.
On en trouve des courants. On a le déchampisme, le sudouisme, le gourcufisme.
Ceci dit, Laporte leur plie le match contre Tottenham aussi.
Ouais, c'est voilà. Ça. Tu peux pas. Mais c'était son seul match.
Il a bien raté.
Mais c'était le mauvais.
Oui, ça c'est sûr.
Tu voulais dire un mot de Thomas Lemar également pour conclure.
Oui, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas donné de nouvelles. Thomas Lemar, qui a une saison quand même compliquée avec des hauts débats. Il était remplaçant ce week-end. Il rentre une demi-heure de la fin. Il marque le but de la victoire. Un garçon bien élevé, un garçon intelligent, bien conseillé, qui n'a pas ouvert sa gueule, qui s'est pas plaint, qui travaille et qui a envie de rester à l'Atlético même si c'est compliqué. Donc voilà, le travail, l'abnégation, la culture de l'effort, ben font que il finira par s'intégrer à l'Atlético même si c'est compliqué. Donc il a eu un petit coin de ciel bleu ce week-end avec ce but. Il a été applaudi par tout le monde. Donc je voulais simplement vous donner une nouvelle de Thomas Lemar. C'est une saison difficile, c'est une intégration, etc. Mais il a l'attitude qu'il faut pour réussir dans ce club et de son championnat. Contrairement à tellement de joueurs que, voilà, si au bout de 3 mois ils jouent pas, qu'ils commencent à dire je veux partir, etc. Voilà. C'est ça aussi l'esprit. Et quand on parle de l'anglais, quand on parle de Benzema, quand on parle de Lemar, il y a une très bonne attitude dans le travail au quotidien et ça finit par payer.
Je vous donne les scores que je vous ai pas donné. Benfica a explosé le Maritimo Funchal 6-0 ce soir. Les matchs n'étaient pas tout à fait terminés tout à l'heure. Donc voilà, vous savez tout. Puis en basket, il y avait un match de Jeep Elite, on dit comme ça maintenant. Limoges a gagné à Boulazac 96-70.
Qui dit que c'est le club Boulazac?
Bah Boulazac, c'est un club de
vin rouge, moi.
Respectez un peu Boulazac, qui devient un club important dans le basket français.
C'est vrai?
Bien sûr.
C'est bizarre, mais
voilà. Dans une petite ville, un beau club de basket. Dernière info, je veux dire un mot, j'ai pas eu le temps tout à l'heure, de François Pinault. Il s'exprime pas beaucoup, François Pinault.
Une semaine de la finale de la Coupe de France, il s'est dit.
Il a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière, puisqu'il a donné une grosse somme, vous le savez, pour la reconstruction de Notre-Dame. Et là, il a parlé foot, c'était sur RTL, hein, pas sur RMC. Et il a dit, voilà, le Stade Rennais s'est traîné, vous connaissez la blague, dit Pinault, qu'est-ce qui monte et qui descend et qui est rouge et noir, c'est le Stade Rennais. Il fait même des blagues, Pinault.
Cette blague, elle a plus de 20 ans.
Et il dit, cette blague, c'est fini. Maintenant, ça y est, voilà, on relève le gant et j'ai passé le flambeau à mon fils qui a plus de réussite que moi, faut le reconnaître, dit François Pinault, qui est toujours un peu en coulisses.
Tout ça ne nous dit pas voilà. Si Salma sera au Stade de France samedi soir.
Oui, exactement.
Mais si elle aime toujours le Stade Rennais.
On ne sait. Et tout ça ne nous dit pas s'il va mettre également 100 millions dans le recrutement du Stade Rennais dans les mois qui viennent.
Ah, ça, j'ai un peu plus de doute, ouais, ça. Non mais c'est vrai, n'empêche, donc.
Bah oui. Supporter Rennais. Il a peut-être craqué la thune du recrutement dans Notre-Dame.
Merde, le supporter Rennais, putain, ça peut faire du blé. T'es, ils ont dû se dire, bah ouais, un petit peu pour nous aussi.
Tiens, Salma Hayek qui est là, Fred.
J'aime le Stade Rennais.
Voilà.
Ah, j'aimais beaucoup.
Ça va, elle aime toujours le Stade Rennais, tout va bien.
Messieurs, dames, merci, c'est fini pour ce soir. Je rappelle rapidement que demain, nous avons un after très intéressant. On va parler des postures des footballeurs. Comment Mbappé attaque? Vous allez voir que c'est toujours pareil. Comment Neymar récupère le ballon? Vous allez voir que c'est toujours pareil. Comment est-ce qu'on doit défendre face à ces gars-là? Comment est-ce qu'on doit constituer une défense centrale? Vous allez voir que c'est pas forcément un droit et un gaucher qu'il faut mettre ensemble. Non, il y a d'autres considérations à prendre en compte. Tout ça, ce sera demain soir dans l'after, ce sera passionnant. Donc prenez rendez-vous. Et puis mercredi, on reparlera des grands courants de pensée des entraîneurs. On parlera peut-être de l'acombisme, puisqu'on va parler de la formation des entraîneurs.
On parlera pas de courant, on parlera de comment les entraîneurs français apprennent mal leur métier à la DTN.
Je coupe mon micro, je veux plus parler.
Oui, bah t'inquiète pas, il y aura quelqu'un de caractère qui sera là pour justement expliquer l'inverse. On verra, ce sera mercredi, il y aura du débat. Salut tout le monde, salut les gars, et à demain soir dans l'after 22h.
RMC, l'after foot.